VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 8 août 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, on s'attend aujourd'hui à la fin du suspense sur l'identité du candidat de la majorité présidentielle à l'élection du 23 décembre prochain.
Toujours en RDC, le nombre de morts dans l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays est passé de 7 à 9.
Au Congo-Brazzaville, lancement officiel hier à Kinkala de l'opération de ramassage des armes des ex-ninjas, absence des représentants du pasteur Ntoumi.
Au Cameroun, 9 candidats, dont le président Paul Biya, au pouvoir depuis 35 ans, ont été retenus pour la présidentielle du 7 octobre.
Au Togo, une enquête a été ouverte sur la profanation de mosquées à Lomé, la capitale.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila va dire dans les prochaines heures s'il respecte la Constitution et désigne un dauphin à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre ou s'il passe outre à l'interdiction de se représenter après 2 mandats. Quel qu'il soit, le candidat de la majorité présidentielle doit déposer son dossier de candidature avant la date limite de mercredi à 15h30 temps universel au siège de la commission électorale à Kinshasa. C'est en tout cas ce que prévoit le calendrier électoral. Un haut cadre de la coalition au pouvoir, Jean-Lucien Bouza, ministre d'État au commerce extérieur, a dit clairement que M. Kabila ne sera pas candidat à sa propre succession. Au micro de notre confrère Thierry Kambundi de Top Congo FM, voici ce que M. Bouza a dit après la réunion du Front commun pour le Congo, hier dans la ferme du président de la RDC.
Je pense qu'au-delà du nom, il y a des dividendes que nous avons obtenus. Ce que nous pouvons dire avec certitude aujourd'hui, nous avons obtenu 4 choses. La constitution n'a pas été changée, ni révisée. Le référendum n'a pas eu lieu. Les élections se tiennent effectivement et deviennent irréversibles. L'alternance démocratique devient une réalité à partir de ce soir. Il est clair qu'à partir de ce soir, le président Kabila n'est pas candidat à sa propre succession. Il est tout aussi clair que d'ici quelques heures, nous connaissons le nom du candidat de FCC.
Le ministre d'État au commerce extérieur, Jean-Lucien Bouza.
Toujours en RDC, le nombre total de décès parmi les cas confirmés de la maladie à virus Ebola dans l'est du pays est passé de 7 à 9, selon un bilan actualisé publié mardi soir par le ministère congolais de la Santé. La 10e épidémie d'Ebola en RDC touche une zone en haute insécurité en raison de la présence de nombreux groupes armés étrangers et locaux. Par exemple, et selon des sources civiles et militaires, 14 personnes enlevées par un groupe armé présumé ont été retrouvées mortes mardi au nord-est de Beni. Des vaccinations ciblées doivent commencer ce mercredi et 12 équipes de vaccinateurs seront déployées dans les différentes zones touchées, précise le ministère.
Au Congo-Brazzaville, le préfet du Poule, le colonel Georges Kilébé et la commission paritaire mixte pour la paix dans le Poule ont officiellement lancé mardi à Kinkala l'opération de ramassage d'armes détenues par les ex-ninjas. Seulement, cette cérémonie s'est déroulée sans la présence des représentants du pasteur Ntoumi, qui avait pourtant participé à la préparation de cette étape de Brazzaville, correspondance d'Arsène Séverin.
Les représentants du pasteur Ntoumi, membres de la commission paritaire mixte, avaient souhaité la présence de leur chef à cette cérémonie. Ils ont sollicité un décalage de quelques jours pour que Ntoumi sorte des bois et assiste au lancement de l'opération à Kinkala. Franck Eloge Mpassi, l'un des porte-parole de Ntoumi, a expliqué à VOA Afrique qu'il était important que le pasteur Ntoumi lui-même donne le coup d'envoi de l'opération en montrant le modèle à ses miliciens. Séraphin Ondélé, le président de la commission, a indiqué que cette opération de ramassage ciblait quelques 3000 armes de tout calibre. Sur place, aucune arme, cependant, même symboliquement, n'a été remise aux autorités. Séraphin Ondélé a demandé à tout détenteur d'armes de la déposer. Au moment où se tenait la cérémonie de Kinkala, Philippe Anébibi, le représentant personnel du pasteur Ntoumi et par ailleurs vice-président de cette commission mixte, s'est trouvé dans la forêt pour ficeler un programme de sortie avec le révérend. La commission mixte paritaire a déjà identifié une dizaine de sites dans le pool où devrait se rendre chaque ex-combattant avec son arme. Il y a quelques jours, lors de la levée des poursuites contre le pasteur Ntoumi, la commission avait prévenu contre toute injonction politicienne dans le processus de ramassage d'armes. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Cameroun, 9 candidats, dont le président sortant, Paul Biya, âgé de 85 ans et au pouvoir depuis 35 ans, ont été retenus pour la présidentielle du 7 octobre, selon une liste publiée par ELECAM, Election Cameroun, l'organe chargé d'organiser ce scrutin. Outre M. Biya du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les principaux opposants retenus sont Joshua Ossi du Social Democratic Front, principal parti d'opposition, et Garga Aman Hadji de l'Alliance pour la démocratie et le développement, arrivé troisième lors de la dernière présidentielle de 2011. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Les observateurs de l'Union européenne ont appelé hier le gouvernement malien à observer davantage de transparence et à garantir l'accès aux bureaux de vote au second tour de la présidentielle dimanche prochain. Dans le même temps, les principaux dirigeants de l'opposition ont tenu hier un meeting à Bamako pour dénoncer, je cite, « la fraude au premier tour ». Le point avec Irénée Herman-Ungbo.
Il serait souhaitable que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires de manière à garantir le droit de vote à tous les électeurs, a souligné dans un communiqué Cécile Guengue, responsable de la mission de l'Union européenne. Suite à la publication des résultats officiels provisoires, 17 des 18 candidats de l'opposition ont constitué une plateforme pour dénoncer ce qu'ils appellent la dictature de la fraude. Notre pays a trop souffert pendant 5 ans et ne mérite pas ça, a déclaré Soumaïla Cissé qui appelle à la mobilisation. L'ancien premier ministre Tchèque Modibo Diarra, arrivé quatrième au premier tour, était le grand absent de la manifestation. Pour l'analyste politique Souleymane Drabo, l'union de l'opposition ne serait qu'une façade. Il y a un front uni pour contester les résultats, il n'y a pas de front uni pour donner des voix à Soumaïla Cissé, principal opposant au président Ibrahim Boubacar Keïta.
En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo devrait être libérée de prison ce mercredi après l'annonce d'une large amnistie pour 800 personnes, dont Madame Gbagbo, par le président Alassane Ouattara. Cette décision a été saluée par certains comme un geste fort en faveur de la réconciliation nationale à 2 ans de la présidentielle, mais elle a été dénoncée par des ONG de défense des droits de l'homme.
Au Togo, une enquête est ouverte après des actes de profanation de plusieurs mosquées à Lomé, a annoncé hier le ministre de la Justice. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ce sont des actes crapuleux et ignobles, des actes criminels. Leur but est certainement de provoquer des conflits interreligieux, mais ils n'y arriveront pas parce que la main de Dieu est sur notre pays, a déclaré Puis Agbotome, ministre de la Justice à la télévision nationale. 4 mosquées ont été profanées dans des quartiers situés en périphérie de Lomé à la fin du mois de juillet et début août par des inconnus qui ont saccagé l'intérieur des lieux de culte, puis ont déchiré et brûlé des exemplaires du Coran. Mardi, l'Union musulmane du Togo a condamné ces actes de vandalisme et a invité la communauté musulmane à ne pas céder aux provocations et à redoubler de vigilance pour la sécurisation des lieux de culte. Les différentes communautés religieuses cohabitent pacifiquement au Togo, mais pendant les nombreuses manifestations qui secouent le pays depuis un an, certains responsables politiques ont parfois accusé certains imams du Nord d'alimenter la contestation pour islamiser le Togo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Afghanistan, l'intensification des efforts pour déloger et détruire le groupe État islamique a permis de faire des progrès dans certains secteurs, mais n'a pas empêché cette organisation terroriste de se maintenir dans le pays, selon les dernières analyses des services de renseignement américains. Le groupe aurait plus de 1000 combattants, dont la plupart dans la province méridionale de Nangarhar et un certain nombre dans la province orientale de Kunar. Parmi ceux qui lui sont restés fidèles, des Afghans ainsi que des Pakistanais et des Ouzbeks.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi se dit forcé d'appliquer à contre-cœur les sanctions américaines contre son grand voisin iranien. Il a noté que son pays avait lui-même souffert de 12 ans d'embargo. Morgane Guiriec.
Nous ne soutenons pas les sanctions injustes, mais nous sommes contraints de les respecter, a déclaré le premier ministre Haider al-Abadi. Bagdad est allié de Washington et de Téhéran, la puissance régionale chiite. L'Irak est aussi le deuxième importateur de produits iraniens pour quelques 6 milliards de dollars en 2017 et beaucoup de ses provinces dépendent de l'Iran pour leur approvisionnement en électricité. Entrant en vigueur mardi, les sanctions américaines visent les transactions financières, les importations de matières premières, les achats dans le secteur automobile et
et l'aviation commerciale. Elles seront suivies en novembre de nouvelles mesures affectant le pétrole et le gaz, ainsi que la Banque centrale. Ces sanctions vont encore plonger l'économie iranienne, qui souffre déjà d'un chômage élevé, d'une forte inflation, alors que le rial iranien a perdu les deux tiers de sa valeur en 6 mois.
Au Venezuela, l'Assemblée constituante entamera aujourd'hui un processus visant à traduire en justice des députés de l'opposition accusés d'être responsables de l'attaque présumée au drone contre le président Nicolas Maduro. C'est ce qu'a annoncé mardi l'organe décisionnaire du pays doté de pouvoir absolu. Cette assemblée a été convoquée par son président pour une session portant uniquement sur la levée de l'immunité parlementaire des députés impliqués dans cet attentat présumé. Mais auparavant, M. Maduro avait lui-même mis en cause l'opposant Julio Borges, ancien président du Parlement, actuellement en exil, ainsi qu'un député de l'opposition.
Plus de 14 000 pompiers venus de tous les États-Unis et même d'Australie et de Nouvelle-Zélande combattaient mardi les vastes incendies qui ravagent la Californie depuis près d'un mois, en particulier le plus gros jamais enregistré dans cet état de la côte ouest. Le record du feu le plus destructeur en termes de superficie brûlée appartient désormais au Mendocino Complex. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le gouvernement chinois veut aider la ville de Libreville à se doter d'un métro. D'après le ministère gabonais des Transports, en plus de la construction d'une ligne de métro, les opérateurs chinois sont également intéressés par d'autres projets, notamment la création de 3 liaisons ferroviaires entre l'actuel aéroport de Libreville et le futur aéroport international d'Andem, près d'Angkok, entre Milingui et Mayumba au sud du pays et entre Franceville et Bumango dans le haut dans le sud-est du Gabon. Les investisseurs chinois veulent aussi réaliser l'étude de faisabilité pour la construction d'un téléphérique urbain à Franceville. Dans le comté de Mombasa au Kenya, les autorités locales vont injecter 2 milliards de dollars dans la construction de logements sociaux. 32 000 logements sociaux seront construits sur les 2 ans à venir. Le projet constitue un pilier clé du programme de développement du comté de Mombasa dénommé Vision 2035 qui vise essentiellement à réduire le déficit de logements estimé à 380 000 unités. Le déficit cumulé de logements au Kenya est estimé à plus de 2 millions d'unités. Nairobi prévoit de construire 1 million de logements sociaux dans tout le pays d'ici à 2023 pour un coût global estimé à 25 milliards de dollars. En Éthiopie, le tourisme a rapporté 3,5 milliards de dollars en 2017-2018 et représente une hausse d'environ 5%. 934 000 touristes ont visité le pays au cours de cette période. En revanche, les emplois ont reculé de 120 000. Les visiteurs ne restent pas longtemps non plus et dépensent donc moins d'argent à cause de l'insuffisance d'infrastructures et le faible niveau de prestations de services.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coup de balai dans l'arbitrage africain.
Ah oui, la Confédération africaine de football a suspendu 7 arbitres et un instructeur technique ghanéen après des faits de corruption relayés par la presse. Les 8 professionnels ghanéens ont été suspendus pour une période de 10 ans, à l'exception de David Larrié, un arbitre assistant exclu à vie. Dans son communiqué, la CAF annonce également la suspension provisoire jusqu'à l'examen de leur cas par le jury disciplinaire de 14 autres arbitres originaires du Ghana, mais aussi du Congo et du Sénégal.
Rubrique transfert.
Simon Moses s'est engagé avec Levante pour les 5 prochaines saisons. Le club espagnol continue de se renforcer après la signature de Sanchin Psic la semaine dernière. L'attaquant international nigérian, qui avait manqué la Coupe du Monde à cause d'une blessure à une cuisse, arrive en provenance de la Gantoise. Il évolue en Belgique depuis 2015 avec un titre de champion à la clé décroché en 2016.
Un autre Nigérian à la tête de la sélection tanzanienne.
Eh oui, la Tanzanie mise sur une ancienne gloire du football africain pour espérer se qualifier à la CAN 2019. Il s'agit d'Emmanuel Amunike. Le Nigérian sera le coach de l'équipe nationale pour les 2 prochaines années. Sa dernière expérience de coach a eu lieu au Soudan où il dirigeait Al Khartoum.
Tour cycliste du Rwanda.
Hier, la 3e étape de 195 km entre Houye et Musanze, c'est le Belge Julian Elman qui s'est imposé avec 8 secondes d'avance sur l'Espagnol David Lozano et le Sud-Africain Calvin Beneke. Au général, le Rwandais Samuel Mugisha reste en jaune. La 4e étape, c'est ce mercredi entre Musanze et Karanji.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Élection présidentielle en République démocratique du Congo. La période du dépôt des candidatures arrive à échéance ce soir. Mais le nom du candidat de la coalition au pouvoir qui doit succéder à Joseph Kabila n'est toujours pas connu. Du côté de l'opposition, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe ou encore Jean-Pierre Bemba ont déjà déposé leur dossier, mais ils posent quelques conditions avant d'aller aux élections. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Si je suis élu, je ferai de la réconciliation des Congolais avec eux-mêmes et de la réconciliation des Congolais avec leur pays une de mes priorités. Je me pencherai aussi sur le retour à la paix et à la sécurité sur l'ensemble du territoire. Le Congo doit recouvrer son administration, la possibilité de rassurer les investisseurs. Nous allons lutter contre les antivaleurs. Ce sera tolérance zéro avec la corruption. Nous sommes contre cette machine. Je crois que nous allons avoir une rencontre importante au mois de septembre à l'extérieur du pays, malheureusement, parce que certains d'entre nous ne peuvent pas revenir ici. Je pense à mon frère Moïse Katumbi.
Ambitieux programme que celui de Félix Tshisekedi, accompagné de nombreux militants de l'UDPS Tshisekedi, le fils et successeur de Feu Étienne Tshisekedi a déposé mardi à la Commission électorale nationale indépendante son dossier de candidature. Comme lui, l'avait fait 5 jours plus tôt Jean-Pierre Bemba Gombo, le président du Mouvement de libération du Congo, qui en avait profité pour s'enrôler, avait à l'occasion longtemps échangé avec Corneille Nangaa, président de la CENI. Machine à voter, électeurs sans empreinte digitale, candidature unique de l'opposition, des sujets évoqués également le lundi 6 août dernier par Vital Kamerhe, un autre candidat de l'opposition.
Nous devons continuer la discussion si la machine a voté, parce que nous voulons être sûrs que ça ne va pas perturber le processus. Nous allons rediscuter de la question de personnes sans empreinte digitale. Nous avons déjà eu une tripartite de l'opposition entre le président Jean-Pierre Bemba, le président Félix Tshisekedi et moi-même.
À la majorité présidentielle, la surprise a été le dépôt mardi de la candidature de Tryphon Kinkyemulumba, ancien ministre de Joseph Kabila et initiateur de Kabila Désir, celui qui, il y a 2 ans, rappelait que Kabila devait poursuivre son œuvre de reconstruction de la RDC, a finalement décidé, contre la volonté de sa famille politique, de s'assumer.
L'élection présidentielle, c'est un homme face à son peuple. Je ne suis pas majorité, je suis M. Kinkié. J'appartiens à la majorité, mais je ne suis pas majorité. Tous ceux qui sont autour du président de la République savent mon opinion sur les FCC.
Mais à la coalition au pouvoir, toujours pas de fumée blanche. Après une longue réunion mardi autour de Joseph Kabila dans sa ferme de Kingakati, le tant attendu nom du candidat du Front commun pour le Congo n'a pas été révélé. Mais pour Jean-Lucien Boussa, ministre d'État au commerce extérieur, une certitude a été dégagée. Joseph Kabila ne se succédera pas à lui-même.
Je pense qu'au-delà des noms, il y a des dividendes que nous avons obtenus. Ce que nous pouvons dire avec certitude aujourd'hui, nous avons obtenu 4 choses. La constitution n'a pas été changée, ni révisée. Le référendum n'a pas eu lieu. Les élections se tiennent effectivement et deviennent irréversibles. L'alternance démocratique devient une réalité à partir de ce soir. Il est clair qu'à partir de ce soir, le président Kabila n'est pas candidat à sa propre succession. Il est tout aussi clair que d'ici quelques heures, nous connaissons le nom du candidat de FCC.
Une chose est sûre, le nom du candidat du Front commun pour le Congo sera révélé dans la journée de ce mercredi, avant que ce dernier n'aille déposer son dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Élection présidentielle toujours au Cameroun, cette fois-ci 9 candidats sur 28, dont le président sortant Paul Biya, ont été retenus pour la présidentielle du 7 octobre qui se prépare dans un contexte de crise sécuritaire. Les principaux opposants retenus sont Joshua Ossi, du SDF et Garga Aman Hadji de l'Alliance pour la démocratie et le développement. Cabral Libi du Parti Univers a appelé à une candidature unique, tandis qu'Akere Mouna est en négociation avec d'autres opposants pour une telle coalition. Une coalition qui a peu de chances de voir le jour, estime la plupart des observateurs, comme le politologue Moussa Ndjoya, joint par Nathalie Barge.
Au vu de la liste des 28 candidats qui avaient initialement déposé leur dossier avant le retrait volontaire du candidat Isaac Seze, il n'y a pas de grande surprise parce que les 9 candidats qui ont été retenus sont ceux qui ont premièrement eu la capacité de verser les 30 millions de cautions, ce qui n'a pas été le cas de tous les candidats, notamment les candidats indépendants, mais également ceux qui remplissaient les conditions de l'article 121 du Code électoral camerounais, à savoir que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut que le parti qui vous investisse ait au moins un conseiller municipal ou un parlementaire, soit un député ou un sénateur élu. La deuxième chose, c'est qu'en dehors des grands routiers, Amunda Ndjoya et Garga Aman Hadji, ainsi que Paul Biya, le reste des 6 candidats sont essentiellement des novices cette fois-ci qui s'engagent à la course pour la présidentielle.
Par rapport au SDF, hein, le fait que John Frundi ne soit plus dans la course finalement et que ce soit donc Joshua aussi qui prennent la relève. Qu'auriez-vous à dire?
Nous avons déjà eu des cas où il y a des passations de témoins à la tête des partis politiques, notamment avec le Madame de Kane en effet. Mais c'est la première fois qu'un président d'un parti politique aussi important que première force de l'opposition accepte de ne pas concourir pour laisser la place à un autre et remplir davantage la condition de jeunesse. Mais il se fait voler la vedette par des candidats. En principe, on l'appareil de moins d'importance tel que Maurice Kamto ou même Cabral Libi qui offre une plus fabrication médiatique dans une large mesure.
Par rapport à cette demande de coalition pour un candidat unique, est-ce que cette fois-ci on pourrait avoir une chance avant le 7 octobre pour que cela se produise ou est-ce que c'est vraiment une utopie?
Candidat unique, c'est une utopie. Un certain nombre d'acteurs, 1, 2, 3 candidats coalisent pour faire face au président Paul Biya, cela est tout à fait possible. Mais compter avoir un candidat unique de l'opposition avant la date de la présidentielle est une utopie.
Et si le président sortant l'emportait, est-ce que, selon vous, cela permettrait de régler ou non la crise sécuritaire au Cameroun?
Cela dépendra de 2 choses. La première chose, quel est le sens que la société donnera à sa victoire? Est-ce qu'on estimera que c'est une victoire méritée ou une victoire volée? Cela conditionnera la réponse de la société globalement. Deuxième chose, est-ce qu'il profitera de cette campagne électorale pour adresser un ensemble de préoccupations des population anglophone. Donc, ici, les facteurs sont assez nombreux, mais dépendra également de ce que l'opposition prendra comme option. Est-ce qu'ils prendront d'une éventuelle victoire du président Biya ou bien est-ce qu'ils opteront pour la contestation de celle-ci?
C'était le professeur Moussa Ndjoya, joint à Yaoundé, au Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, une vingtaine de candidats réunis hier en meeting au Palais de la Culture ont rejeté les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle du 29 juillet 2018. Ils ont demandé la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, le recomptage des suffrages ou l'annulation de cette élection par la Cour constitutionnelle. Certains ténors de l'opposition étaient présents à ce meeting, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les militants et sympathisants des 20 candidats ont bravé la pluie pour être présents dans la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture, lieu du meeting de contestation des résultats provisoires. Aliou Diallo, candidat de ADP Maliba.
Le bulletin nul par rapport aux votants, c'est entre 10 et 22%, alors que la moyenne des bulletins nuls, c'est autour de 7%. En dehors des zones où nous sommes en balotage avec Ileka, c'est autour de 5%. Comme s'il y avait un logiciel qui a été bipé, partout où on est en avantage pour lui, où on est en balotage avec Ibeka, d'annuler entre 10 à 20% des bulletins de vote. Tous les bulletins de vote à Aliou Diallo, ils ont annulé entre 10 à 20%. Nous avons introduit des recours à la Cour. Les Maliens ont été insultés dans cette élection par l'annulation de vos votes, par le bourrage des urnes.
Tour à tour, les candidats ont égrené leur chapelet de contestation. Choguel Kokala Maïga, candidat du parti MPR.
Est-ce que
vous savez que la population de Menaka, avant la guerre, était d'environ 50 000 personnes. Avec la guerre, tout le monde est parti. Il n'y a que quelques tribus qui sont restées. Comment peut-on faire voter 33 000 personnes à Menaka? Ce n'est pas possible. Les mouvements armés demandent depuis un an la nomination des autorités intérimaires. Est-ce que vous savez que dans les régions du Nord, c'est la veille des élections qu'on a nommé les présidents des autorités intérimaires?
La commission de centralisation du ministère de l'administration territoriale a été décriée. Selon Maître Muntagatal, ils ont fait tout sauf la compilation des résultats. Maître Muntagatal, candidat de Smil Faso Yeliwa.
Tu vas me dire que tu as gagné tant à Paraguay, sans me dire combien j'ai gagné à Sanando, et à Sanando combien j'ai gagné dans tel ou tel bureau de vote. Alors, quand on répond, je ne le fais pas. La question essentielle n'est pas de savoir pourquoi tu ne le fais pas, mais comment tu as eu les résultats. Comment tu as eu les résultats? Parce que c'est une somme que tu dois donner. Donc nous devons ensemble réfléchir sur cela. Les autorités l'ont demandé, ils n'ont pas une sympathie particulière pour nous, ils savent comment ça fonctionne, mais nous l'exigeons.
Le décompte des voix bureau de vote par bureau de vote est une exigence de 20 candidats. Soumaïla Cissé, candidat de l'URD.
Nous voulons les vrais résultats. Et pour avoir les vrais résultats, il faut avoir des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est vraiment un scandale ce qui se passe dans notre pays. Que les Maliens comprennent que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Le monde entier nous regarde. Personne ne comprendra que ces résultats soient acceptés tel que. La Cour, si elle veut faire correctement son travail, devrait au moins nous donner les résultats bureau de vote par bureau de vote.
En plus de la démission du ministre de l'administration territoriale, les 20 ont demandé le recomptage des suffrages ou l'annulation de cette élection par la Cour constitutionnelle qui doit rendre son verdict cet après-midi. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Les réactions se poursuivent après l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre l'Iran. L'Union européenne et la Russie, entre autres, ont dénoncé la mesure. Le premier ministre irakien Adair al-Abadi s'est dit contraint d'appliquer à contre-cœur les sanctions américaines contre son grand voisin iranien, arguant que son pays avait lui-même souffert de 12 ans d'embargo international. Abdulrahman Dia a joint en France l'ancien président iranien Abolhassan Banisadr.
Non, absolument pas. Parce que les États-Unis y a signé un accord, l'État doit respecter sa signature. Même si je n'étais pas d'accord avec cet accord.
Pourquoi vous n'étiez pas d'accord avec l'accord?
C'est un accord par lequel l'Iran a été soumis à 105 engagements. Les États-Unis, même pas un engagement. Donc c'était une soumission. C'était pas un accord, c'était une soumission. Donc je n'étais pas d'accord. Cela, aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Je constate que un président a été remplacé par un autre président et le nouveau, il dit que ça ne suffit pas, il faut encore plus.
Vous voulez parler du président Trump?
Voilà. Pour obtenir ce qu'il veut imposer à l'Iran, c'est le fait moyen, c'est les sanctions. Qui sont victimes de ces sanctions? Le peuple iranien. Il le dit clairement. Par les sanctions les plus sévères, la situation du peuple devient grave et le peuple se voit obligé de se lever contre le régime.
Monsieur le Président, l'administration Trump estime que le régime iranien pourrait ne pas respecter les termes de l'accord et que c'est pour cela que Washington s'est retiré de l'accord sur le nucléaire de 2015. Vous pensez que le programme qui a été mis en place permettait un contrôle du programme nucléaire de Téhéran?
D'abord, jusqu'à aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie atomique dit très clairement que l'Iran a respecté cet engagement. Deuxièmement, M. Trump dit qu'après la fin de l'accord, il n'y a pas une garantie que l'Iran ne recommencerait pas son programme de produire armes atomiques. C'est faux.
Si les sanctions se poursuivent, est-ce que cela peut pousser les populations à sortir dans la rue?
Si vous voulez que le peuple iranien demande ses droits, qu'il agisse pour mettre fin à la dictature des mollahs et que la démocratie se rétablisse, laissez-le tranquille.
C'était l'ancien président iranien Abol Hassan Banisadr. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.